Il est là, comme à tous les vendredis, Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, on commence fort.
Oh oui, on commence fort
avec, c'est ton enquête qui se poursuit, puis tu nous amènes des éléments de preuve.
Voilà.
Avec des gens sensés, des pilotes d'avion, des bandes audio, ou des gens qui témoignent d'avoir vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant.
Voilà, et on le sait, ces histoires, on en a parlé à quelques reprises, ces histoires, c'est ce qu'on appelle dans le domaine des ovnis les dossiers aériens. Donc, les dossiers aéronautiques, ce sont des rapports faits par des pilotes civils ou militaires qui témoignent de la présence d'objets volants non identifiés. Et dans le cas présent, je te rappelle, on en avait parlé ici lorsque le Bureau de l'administration de l'aviation aux États-Unis avait rendu public il y a quelques semaines un incident tout à fait particulier qui s'est produit le 24 février dernier. Ça se passait, nous dit-on, parce qu'on a eu quelques petits ajustements là-dessus, on nous disait que ça se passait à la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. On avait, je te rappelle les faits, on avait à ce moment-là deux appareils en l'air. On avait un appareil, un Jet Lear, qui faisait route vers l'ouest. Et on avait également un appareil, un A321 de l'American Airlines, le vol 1095, qui lui aussi faisait route vers l'ouest. Et là, le premier pilote, celui du Jet Lear, observe quelque chose. Il contacte le centre de contrôle aérien du Nouveau-Mexique qui se trouve à Albuquerque. Et voici un peu, on a fait un petit montage d'une minute. Je te rappelle ici les conversations qui ont été enregistrées à ce moment-là. On écoute ça.
Number 71 Papa Golf, good.
And was anybody at sun, above us to pass us like 30 seconds ago?
Number 71 Papa Golf, negative.
A UFO.
American 1095, let me know if you see anything pass over you here in the next 15 miles. American 1095, affirmative. We had an aircraft in front of you that's 37 that reported something pass over him, and we didn't have any targets, so just let me know if you see anything pass over you.
I don't know what it was. It wasn't an airplane, but the pass was going the opposite direction.
Hey, it's American 1095. Yeah, something just passed over. Don't know what it was, but it's at least 2,000-3,000 feet above us. Yeah, it passed right over the top of us.
Okay, American 1095, thank you. American 1095, can you tell if it was in motion or just hovering?
Make it out whether it was a balloon or whatnot, but it was just really either bright or had a big reflection on it. Several thousand feet above us, going opposite direction.
Okay, Roger.
Alors là, c'est ça.
C'est déconcertant quand même.
Non. Alors là, le premier pilote parle à la tour de contrôle, dit là, je viens de voir quelque chose.
Voilà.
Il s'en allait dans telle direction. Là, le contrôleur appelle le 1095 de l'American Airlines. Il dit, écoute, il y a quelque chose qui s'en va dans ta direction. Si tu le vois passer, fais-nous signe. Et effectivement, le pilote dit, ben oui, je viens de le voir passer.
Voilà.
J'ai jamais vu une affaire de même.
Exact. Et à ce moment-là, le bureau de l'administration de l'aviation rend public ses communications radio. On ne fournit pas beaucoup d'informations à savoir de quoi il s'agit. On sait simplement que ce secteur-là est un secteur très militarisé. Il pourrait donc la première hypothèse, il pourrait s'agir d'un drone ou d'un appareil militaire.
D'un prototype, hein,
prototype militaire. Mais jusqu'à maintenant, toujours pas d'explication. Et là, on en rajoute une couche. On apprend il y a quelques jours, et ça, c'est vraiment exceptionnel, le pilote du deuxième avion, donc celui qu'on entend qui dit « je viens de le voir passer », il est à quelques milliers de pieds au-dessus de nous. Ce pilote-là est un type qui s'appelle Blaenus Green. C'est un ancien pilote militaire. Il a notamment piloté des B-1, donc la première version des bombardiers furtifs de l'armée américaine. C'est un type qui a une très, très longue expérience de vol. Et c'est très rare que des pilotes acceptent de parler aux médias de ce qu'ils ont observé, mais cette fois, ce monsieur Green a accepté de se confier à une station radio d'Abilene, au Texas. Il est lui-même originaire d'Abilene. Et là, il raconte ce qu'il a vu. C'est quand même étonnant. Écoute, on l'écoute, Bernard, et je te rappelle un peu le contexte de ce qu'il a raconté.
So Albuquerque Center asked us if we could look and just be on the lookout and see if we see anything. And I'm like, okay. So sure enough, I was looking at the windscreen because I wanted to see it if it was there. And yeah, I did. I saw it. It was very bright, but it wasn't so bright that you couldn't look at it. You know, you almost really wanted to look at it to try to figure out what it was. It didn't look anything like an airplane. But what was weird about it, normally if you have an object, you know, and if the sun's shining this way, the reflection will be on this side. But this was bright all the way around. And it was so bright that you really couldn't make out what shape it was.
Donc, écoute,
c'est quand même surprenant. Et ici, mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre le pilote le raconter parce que, comme je l'ai mentionné, les pilotes, généralement, sont très avares de commentaires pour deux raisons. Non, ils ne veulent pas être l'objet des colibets de leurs collègues. Mm-hmm. Et bien sûr, ils ne veulent pas impliquer la compagnie aérienne. On ne voudrait pas que les gens commencent à dire « Ah, American Airlines, c'est la compagnie où les pilotes voient des soucoupes volantes. » Donc, exact. Tu vois, donc on ne veut pas ça. Donc, les pilotes demeurent très discrets. Mais ici, M. Green a parlé ouvertement de ce qu'il a observé. Et il a ajouté des informations. Et là, ça va sûrement faire fantasmer les amateurs d'OVNI, parce que l'observation en question ne s'est pas produite réellement à la frontière du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Elle s'est produite au-dessus d'une petite ville du Nouveau-Mexique qui va certainement rappeler beaucoup de choses aux amateurs d'OVNI.
Non.
Oui, la ville de Roswell au Nouveau-Mexique.
Tu me niaises.
Absolument pas. On apprend du bureau de l'Administration fédérale de l'aviation ainsi que dans la bouche du pilote que le phénomène observé s'est produit exactement au-dessus de la petite communauté de Roswell. Et je ne sais pas, Bernard, si tu as déjà été à Roswell. J'imagine que non. Que ce n'est pas la ville où il y a le plus d'attraits touristiques. Mais écoute, cette ville de Roswell, depuis 1947, vit un peu au rythme des extraterrestres.
Ben oui.
Je rappelle rapidement, en 1947, on a raconté qu'un objet s'était écrasé dans le désert près de Roswell. Et la légende voudrait qu'il s'agissait d'une soucoupe volante et de ses occupants. Aujourd'hui, quand on va à Roswell, tout vibre à l'image de ces extraterrestres. Les réverbères de la rue représentent des têtes d'extraterrestres avec des yeux bridés. Le McDonald's est construit comme une sorte de soucoupe volante. Il y a deux musées consacrés aux ovnis. Donc, on voit que le phénomène ovni est très populaire à Roswell. Et là, bien sûr, comme je l'ai mentionné, on en rajoute un peu une couche avec cette observation tout à fait exceptionnelle où l'incident s'est produit à la verticale de Roswell, Nouveau-Mexique.
Incroyable. Il n'y avait pas une série américaine qui commençait?
Oui, une série qui s'appelle justement Roswell et qui tourne autour, dont la mort est cette histoire d'OVNI écrasé dans le Nouveau-Mexique, au Nouveau-Mexique.
Eh bien, écoute, c'est...
Fait qu'écoute, je suis...
Je reste tout aussi sceptique.
Oui, mais...
J'ai pas le goût de commencer à croire à ça, mais je suis quand même... Comment je te dirais ça? Je suis quand même assez surpris d'entendre ça.
Tu vois, on se dit, avoir l'esprit ouvert, ce n'est pas l'avoir ouvert à n'importe quelle sottise. Donc, il faut faire preuve un peu de sens critique. Mais lorsqu'on entend des conversations comme celle-là, on entend un pilote qui raconte ce qu'il a observé, sans nous forcer à accepter qu'on est visité par des extraterrestres, il y a quand même une petite question qu'on se pose. Il y a quand même des drôles de trucs qui se passent parfois en l'air.
Voilà.
Et là, on en a un bel exemple.
Exactement, exactement. On va s'arrêter, puis au retour, on a d'autres histoires intéressantes, insolites à vous raconter dans un instant. De retour donc avec Christian Page pour Les mythes et complots. Parle-nous, s'il te plaît, de cette pièce de monnaie que vient de lancer la monnaie royale canadienne.
Et oui, on reste dans l'univers des ovnis. Donc, depuis mardi maintenant, les gens peuvent se procurer pour quand même 129 $ une pièce de monnaie. Je dis 129 $, mais 129,95 $, donc disons 130 $. C'est une pièce de monnaie de 20 $ qui est fait en argent et qui est frappé à l'effigie d'un événement, probablement l'une des meilleures histoires d'OVNI de tous les temps. Je te dirais, si tu me demandais, Bernard, quelles sont les 5 meilleures histoires d'OVNI jamais rapportées dans la littérature, celle-là ferait une bonne figure. Ça s'est passé le 20 mai 1967. Ça se passe à Falcon Lake, au Canada. C'est dans le parc national Whiteshell qui se trouve tout près de la frontière avec l'Ontario. Et ce 20 mai 1967, on a un prospecteur du nom de Stefan Michalak qui a quitté le motel en début de journée. Il s'est rendu, j'y suis déjà allé, c'est un endroit vraiment très isolé au milieu de la forêt. Et alors qu'il se trouve là, on est en milieu d'après-midi, ce Stefan Michalak, qui est mécanicien industriel à Winnipeg, voit descendre vers lui. D'abord, il voit dans le ciel deux objets qui ressemblent à des cigares luminescents. Ces deux objets arrivent au-dessus de lui et il s'arrête, l'un d'entre eux. Et là, à ce moment-là, Michalak constate que ce ne sont plus ils n'ont plus vraiment la forme de cigare, mais plutôt d'une espèce de bol renversé avec une coupole. L'un des objets descend et se pose à moins de 10 mètres de Michalak. Donc, tu t'imagines, on est en plein milieu de la journée, il le voit très bien, il est caché derrière un rocher, il a le temps de le détailler, il a même le temps de faire un petit dessin sur un calepin qu'il a dans sa poche. Et je te rappelle aussi qu'on est en 1967, À ce moment-là, on a vu beaucoup de dessins, de photos dans des magazines, journaux qui annoncent l'avènement de l'homme bientôt sur la Lune. Et on a vu des croquis, des dessins, tout ça. Et Mikalak est persuadé que ce qu'il a devant lui est un prototype américain, probablement destiné à la conquête de l'espace. Alors, pendant un moment, il reste
c'est
là.
C'est si gros que ça?
Oui, c'est un objet qui fait à peu près 10 mètres de diamètre. Et alors qu'il l'observe, il voit sur le côté de l'objet une espèce de grille qui ressemble à une grille d'aération, d'où émane une lueur violacée. Et également, sur la coupole, il voit des espèces de petites ouvertures rectangulaires, d'où sort aussi cette lueur violacée. Et voilà qu'après quelques minutes, une espèce d'écoutille ou de porte s'ouvre sur le côté de l'objet. On dirait un peu l'iris d'une caméra, comme des lamelles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, Mikalak sent une odeur de caoutchouc brûlé. Il s'approche, glisse la tête dans l'ouverture, ça semble quasiment incroyable, il glisse la tête dans l'ouverture, ne voit que cette lumière violacée à l'intérieur de l'objet, il se retire, et là, évidemment, il demande, il est polyglotte, il parle plusieurs langues, alors il demande d'abord en anglais, avez-vous des problèmes, les Yankees, parce qu'il est convaincu que ce sont des Américains, pas de réponse, il repose la question en anglais, c'est-à-dire en allemand, en ukrainien, en français, toujours pas de réponse, et là, dans sa main, il a des gants avec des embouts caoutchoutés. Il détaille l'objet. L'objet, lui, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un objet qui semble couler d'une seule pièce, en métal, sans rivet, sans ouverture. Il met sa main sur le dessus de l'objet et à ce moment-là, il y a un effet un peu domino qui se produit. La porte se referme, la base de l'objet pivote. Il se retrouve devant la grille d'où émanait cette lueur violacée qui lance un souffle d'air chaud qui met le feu aux vêtements de Mikalak. Mikalak se roule dans l'herbe pour éteindre le feu contre ses vêtements et au moment où il se relève, l'objet a déjà commencé à s'élever et il s'éloigne dans le ciel. Pour te faire une histoire courte, le soir même, Mikalak se présente à l'hôpital de Winnipeg. Il dit au médecin traitant qu'il a été victime d'un accident d'avion. Il dit avoir été soufflé par les gaz d'échappement d'un avion. Les médecins vont diagnostiquer chez Mikalak une irradiation et on va remarquer sur son abdomen des brûlures qui forment une espèce de damier, comme les marques laissées par la grille de cet ovni. Éventuellement, il y aura deux enquêtes du gouvernement fédéral là-dessus, une enquête de la GRC, une enquête du département de la Défense. Ils vont se rendre sur les lieux où Mikalak dit avoir observé son mystérieux objet. On va constater que l'endroit est devenu radioactif, mais entendons-nous, légèrement radioactif, tant et si bien que le gouvernement fédéral va faire boucler le secteur pendant 3 mois pour empêcher que d'autres personnes se rendent sur les lieux. On ne trouvera jamais d'explication à l'affaire Mikalak. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les membres de la famille. Mikalak est décédé en 1999. J'ai eu la chance de rencontrer les fils de Mikalak. On a jasé ensemble. On est allé manger ensemble. Et ces gens-là me disaient, jusqu'à la mort de notre père en 99, il est demeuré persuadé que ce qu'il avait vu était une espèce de prototype militaire. Il n'a jamais fait d'association, avec des extraterrestres. Quoi qu'il en soit, c'est demeuré une histoire inexplicable. C'est passé dans la culture populaire, l'une des 5 meilleures histoire d'OVNI de tous les temps. Et maintenant, la Monnaie Royale souligne le 51e anniversaire de cet événement par une très belle pièce de monnaie qui va rappeler ces événements extraordinaires. La pièce de monnaie, d'ailleurs, n'a pas une forme ronde, mais plutôt une forme un peu ovale qui nous rappelle peut-être une tête d'extraterrestre petit gris. Et la pièce est luminescente sous la lumière noire, sous la black light. Donc, une pièce de collection pour les amateurs d'OVNI.
Oui, j'allais dire une pièce de 20 piastres qui coûte 130 piastres.
Ouais, quand même. Mais il faut pas l'acheter pour sa valeur nominale.
Mais non. Non. Même pour sa valeur sentimentale.
Absolument. Et pour les collectionneurs.
Christian Page, c'est toujours un plaisir. Je rappelle que tu vas présenter les grandes énigmes de l'histoire. Deuxième partie, le 21 avril prochain à 19h30. Les gens peuvent s'informer au www.christianpage.ca 21 avril à 19h30. Merci, Christian.
Ça fait plaisir.
Merci également à Maryse et Alexandra, mes recherchistes extraordinaires, fantastiques. Cette semaine, c'était François Brisson qui était à la console. Merci François pour cette belle semaine. Merci à vous les auditeurs. Belle semaine aussi. Paul arrive à lundi.